Chapitre 5. Quoique cette enceinte de rochers paraisse derrière presque perpendiculaire, ces plateaux verts qui en divisent la hauteur sont autant d'étages par lesquels on passe au moyen de quelques sentiers difficiles jusqu'au pied de ce cône de rochers incliné et inaccessible qu'on appelle le Pouce. À la base de ce rocher est une esplanade couverte de grands arbres, mais si élevée et si escarpée qu'elle est comme une grande forêt dans l'air environnée de précipices effroyables. Les nuages que le sommet du Pouce attire sans cesse autour de lui y entretiennent plusieurs ruisseaux qui, à une si grande profondeur au fond de la vallée, située au revers de cette montagne, que de cette hauteur on n'entend point le bruit de leur chute. De ce lieu, on voit une partie de l'île, avec ses mornes surmontées de leur Rotrupiterborf et les trois mamelles avec leurs vallons remplis de forêts. Puis la pleine mer et l'île Bourbon à 40 lieues de là vers l'occident. Ce fut de cet endroit que Paul aperçut le vaisseau qui emmenait Virginie à plus de 10 000 lieues au large comme un point noir au milieu de l'océan. Il resta une partie du jour tout occupé à la considérer. Il était déjà disparu, qu'il croyait le voir encore, et il fut perdu dans la vapeur de l'horizon. Il s'assit dans ce lieu sauvage, toujours battu des vents, qui y agite sans cesse des palmistes et des tatamacs. Leur murmure émugissant ressemble au bruit lointain des orgues et inspire une profonde mélancolie. Ce fut là que je trouvai Paul, appuyé contre le rocher et les yeux fixés vers la terre. Je marchais après lui depuis le lever du soleil. J'eus beaucoup à le déterminer à descendre et à revoir sa famille. Je le ramenai cependant à son habitation. Et son premier mouvement, en revoyant Madame de la Tour, fut de se plaindre amèrement qu'elle l'avait trompé. Madame de la Tour nous dit que le vent s'étant levé vers les 3 heures du matin, le vaisseau, au moment d'appareiller, le gouverneur, suivi d'une partie de son état-major et du missionnaire, était venu chercher Virginie en palanquin, et que malgré ses propres raisons et celles de Marguerite, tout le monde, criant que c'était pour leur bien à tous, ils avaient emmené sa fille à demi mourante. Au moins, répondit Paul, si je lui avais fait mes adieux, je serais tranquille à présent. Je lui aurais dit, Virginie, si pendant le temps que nous avons vécu ensemble, il m'est échappé quelques paroles qui vous aient offensé, avant de me quitter pour jamais, dites-moi que vous me la pardonnez. Je lui aurais dit, puisque je ne suis plus destiné à vous revoir, adieu, ma chère Virginie, adieu. Vivez loin de moi, contente et heureuse. Et comme il vit que sa mère et Madame de la Tour pleuraient, cherchez maintenant, leur dit-il, quelque autre que moi qui essuie vos larmes. Puis il s'éloigna d'elle en gémissant et se mit à errer çà et là dans l'habitation. Il en parcourait tous les endroits qui avaient été les plus chers à Virginie. Il disait à ses chèvres et à leurs petits chevreaux qui le suivaient en bêlant, que me demandez-vous? Vous ne reverrez plus avec moi celle qui vous donnait à manger dans sa main. Il fut au repos de Virginie, et à la vue des 6 oiseaux qui voltigeaient autour, il s'écria, « Pauvres oiseaux, vous n'irez plus au-devant de celle qui était votre bonne nourrice. » En voyant Fidèle qui flairait çà et là et marchait devant lui en quêtant, il soupira et lui dit, « Oh, tu ne la retrouveras plus jamais. » Enfin, il fut s'asseoir sur le rocher, où il lui avait parlé la veille, et à l'aspect de la mer où il avait vu disparaître le vaisseau qu'il avait emmené, il pleura abondamment. Cependant, nous le suivons pas à pas, craignant quelque suite funeste de l'agitation de son esprit. Sa mère et Madame de la Tour le priaient par les termes les plus tendres de ne pas augmenter leur douleur par son désespoir. Enfin, celle-ci parvint à le calmer en lui prodiguant les noms les plus propres à réveiller ses espérances. Elle l'appelait son fils, son cher fils, son gendre, celui à qui elle destinait sa fille. Elle l'engagea à rester dans la maison et à y prendre quelque peu de nourriture. Il se mit à table avec nous, auprès de la place où se mettait la compagne de son enfance, et comme si elle l'eût encore occupé, il lui adressait la parole et lui présentait les mets qu'il savait lui être les plus agréables. Mais dès qu'il s'apercevait de son erreur, il se mettait à pleurer. Les jours suivants, il recueillit tout ce qui avait été à son usage particulier et les derniers bouquets qu'elle avait portés. Une tasse de coco où elle avait coutume de boire. Et comme si ces restes de son ami eussent été les choses du monde les plus précieuses, il les baisait et les mettait dans son sein. L'ambre ne répand pas un parfum aussi doux que les objets touchés par l'objet que l'on aime. Enfin, voyant que ses regrets augmentaient ceux de sa mère et de Madame de la Tour, et que les besoins de la famille demandaient un travail continuel, il se mit, avec l'aide de Domingue, à réparer le jardin. Bientôt, ce jeune homme indifférent, comme un créole pour tout ce qui se passe dans le monde, me pria de lui apprendre à lire et à écrire, afin qu'il pût entretenir une correspondance avec Virginie. Il voulut ensuite s'instruire dans la géographie, pour se faire une idée du pays où elle débarquerait, et dans l'histoire, pour connaître les mœurs et de la société où elle allait vivre. Ainsi, il s'était perfectionné dans l'agriculture et dans l'art de disposer avec agrément le terrain le plus irrégulier par le sentiment de l'amour. Sans doute, c'est aux jouissances que se propose cette passion ardente et inquiète que les hommes doivent la plupart des sciences et des arts. Et c'est de ces nations qu'est née la philosophie qui apprend à se consoler de tout. Ainsi, la nature ayant fait de l'amour le lien de tous les êtres, l'a rendu le premier mobile de nos sociétés et l'instigateur de nos lumières et de nos plaisirs. Paul ne se trouva pas beaucoup de goût dans l'étude de la géographie, qui, au lieu de nous décrire la nature de chaque pays, ne nous en présente que les divisions politiques. L'histoire, et surtout l'histoire moderne, ne l'intéressa guère davantage. Il n'y voyait que des malheurs généraux et périodiques, dont il n'apercevait pas les causes, des guerres sans sujet et sans objet, des intrigues obscures, des nations sans caractère et des princes sans humanité. Il préférait à cette lecture celle des romans, qui, s'occupant davantage des sentiments et des intérêts des hommes, lui offrait quelquefois des situations pareilles à la sienne. Aussi, aucun livre ne lui fit autant de plaisir que le Télémaque, par ses tableaux de la vie champêtre et des passions naturelles au cœur humain. Il en lisait à sa mère et à Madame de la Tour les endroits qui l'affectaient davantage. Alors, ému par de touchants ressouvenirs, sa voix s'étouffait et les larmes coulaient de ses yeux. Il lui semblait trouver dans Virginie la dignité et la sagesse d'Antiope, avec les malheurs et la tendresse de Charis. D'un autre côté, il fut tout bouleversé par la lecture de nos romans à la mode, pleins de mœurs et de maximes licencieuses. Et quand il sut que ces romans renfermaient une peinture véritable des sociétés de l'Europe, il craignit, non sans quelque apparence de raison, que Virginie ne dût à s'y corrompre et à l'oublier. En effet, plus d'un an et demi s'était écoulé sans que Madame de la Tour n'eût des nouvelles de sa tante et de sa fille. Seulement, elle avait appris une voix étrangère que celle-ci était arrivée, heureusement, en France. Enfin, elle reçut par un vaisseau qui allait aux Indes un paquet et une lettre écrite de la propre main de Virginie. Malgré la circonspection de son aimable et indulgente fille, elle jugea qu'elle était fort malheureuse. Cette lettre peignait si bien sa situation et son caractère que je l'ai retenue presque mot pour mot. Très chère et bien-aimée maman, je vous ai déjà écrit plusieurs lettres de mon écriture et comme je n'en ai pas eu de réponse, j'ai lieu de craindre qu'elle ne vous soit point parvenue. J'espère mieux de celle-ci par les précautions que j'ai prises pour vous donner de mes nouvelles et pour recevoir des vôtres. J'ai versé bien des larmes depuis notre séparation, moi qui n'avais presque jamais pleuré que sur les maux d'autrui. Ma grand-tante fut bien surprise à mon arrivée lorsque, m'ayant questionné sur mes talents, je lui dis que je ne savais ni lire ni écrire. Elle me demanda qu'est-ce que j'avais donc appris depuis que j'étais au monde. Et quand je lui eus répondu que c'était à avoir soin d'un ménage et à en faire votre volonté, elle me dit que j'avais reçu l'éducation d'une servante. Elle me mit le lendemain en pension dans une grande abbaye auprès de Paris, où j'ai des maîtres de toute espèce. Ils m'enseignent, entre autres choses, l'histoire, la géographie, la grammaire, la mathématique et à monter à cheval. Mais j'ai de si faibles dispositions pour toutes ces sciences que je ne profiterai pas beaucoup avec ces messieurs. Je sens que je suis une pauvre créature qui ait peu d'esprit, comme ils font entendre. Cependant, les bontés de ma tante ne se refroidissent point. Elle me donne des robes nouvelles à chaque saison. Elle a mis près de moi deux femmes de chambre qui sont aussi bien parées que de grandes dames. Elle m'a fait prendre le titre de comtesse, mais elle m'a fait quitter mon nom de la Tour, qui m'était aussi cher qu'à vous-même, par tout ce que vous m'avez raconté et les peines de mon père avait souffert pour vous épouser. Elle a remplacé votre nom de femme par celui de votre famille, qui m'est encore cher cependant, parce qu'il a été votre nom de fille. Me voyant dans une situation aussi brillante, je l'ai supplié de vous envoyer quelques secours. Comment vous rendre sa réponse ? Mais vous m'avez recommandé de vous dire toujours la vérité. Elle m'a donc répondu que peu ne vous servirait à rien et que dans la vie simple que vous menez, beaucoup vous embarrasserait. J'ai cherché d'abord à vous donner de mes nouvelles par une main étrangère au défaut de la mienne, mais n'ayant à mon arrivée ici personne en qui je puisse prendre confiance, je me suis appliqué nuit et jour à apprendre à lire et à écrire. Dieu m'a fait la grâce d'en venir à bout en peu de temps. J'ai chargé de l'envoi de mes premières lettres les dames qui sont autour de moi. J'ai lieu de croire qu'elles les ont remises à ma grand-tante. Cette fois, j'ai eu recours à une pensionnaire de mes amis. C'est sous son adresse ci jointe que je vous prie de me faire passer vos réponses. Ma grand-tante m'a interdit toute correspondance au dehors qui pourrait, selon elle, mettre obstacle aux grandes vues qu'elle a sur moi. Il n'y a qu'elle qui puisse me voir à la grille, ainsi qu'un vieux seigneur de ses amis qui a, dit-elle, beaucoup de goût pour ma personne. Pour dire la vérité, j'en ai point du tout pour lui. Quand même, j'en pourrais prendre pour quelqu'un. Je vis au milieu de l'éclat de la fortune et je ne peux disposer d'un sou. On dit que si j'avais de l'argent, cela tirerait à conséquence. Mes robes même appartiennent à mes femmes de chambre qui se les disputent avant que je les aie quittées. Au sein des richesses, je suis bien plus pauvre que je ne l'étais auprès de vous, car je n'ai rien à donner. Lorsque j'ai vu que les grands talents que l'on m'enseignait ne me procuraient pas la facilité de faire le plus petit bien, j'ai eu recours à mon aiguille, dont heureusement vous m'avez appris à faire usage. Je vous envoie donc plusieurs paires de bas de ma façon, pour vous et maman Marguerite, un bonnet pour Domingue et un de mes mouchoirs rouges pour Marie. Je joins à ce paquet des pépins, des noyaux, des fruits de mes cotations, avec des graines de toutes sortes d'arbres que j'ai recueillis à mes heures de récréation dans le parc de l'abbaye. J'y ai ajouté aussi des semences de violettes, de marguerites, de bassinets, de coquelicots, de bluets, de scabieuses que j'ai ramassées dans les champs. Il y a dans les prairies de ce pays de plus belles fleurs que dans les nôtres, mais personne ne s'en soucie. Je suis sûr que vous et maman, Marguerite, serez plus contentes de ce sac de graines que du sac de piastres qui a été la cause de notre séparation et de mes larmes. Ce sera une grande joie pour moi si vous avez un jour la satisfaction de voir des pommiers croître auprès de nos bananiers et des hêtres mêler leur feuillage à celui de nos cocotiers. Vous vous croirez dans la Normandie que vous aimez tant. Vous m'avez enjoint de vous mander mes joies et mes peines. Je n'ai plus de joie loin de vous. Pour mes peines, je les adoucis en pensant que je suis dans un poste où vous m'avez mise par la volonté de Dieu. Mais le plus grand chagrin que j'y éprouve est que personne ne me parle ici de vous et que je n'en puis parler à personne. Mes femmes de chambre, ou plutôt celles de ma grand-tante, car elles sont plus à elles qu'à moi, me disent, lorsque je cherche à amener la conversation sur les objets qui me sont si chers, « Mademoiselle, souvenez-vous que vous êtes française et que vous devez oublier le pays des sauvages. » Ah, je m'oublierai plutôt moi-même que d'oublier le lieu où je suis né et où vous vivez. C'est ce pays-ci qui est pour moi un pays de sauvages, car j'y vis seul, n'ayant personne à qui je puisse faire part de l'amour que vous portera jusqu'au tombeau. Très chère et bien-aimée maman, votre obéissante et tendre fille, Virginie de la Tour. Je recommande à vos bontés Marie et Domingue, qui ont pris tant de soin de mon enfance, caressé pour moi fidèle, qui m'a retrouvé dans les bois. Paul fut bien étonné de ce que Virginie ne parlait pas du tout de lui. Elle, qui n'avait pas oublié dans ses ressouvenirs le chien de la maison, mais il ne savait pas que, quelque longue que soit la lettre d'une femme, elle n'y met jamais sa pensée la plus chère qu'à la fin. Dans un post-scriptum, Virginie recommandait particulièrement à Paul deux espèces de graines, celles de violette et de scabieuse. Elle lui donnait quelques instructions sur les caractères de ces plantes et sur les lieux les plus propres à les semer. La violette, lui demandait-elle, produit une petite fleur d'un violet foncé qui aime à se cacher sous les buissons, mais son charmant parfum l'y fait bientôt découvrir. Elle lui enjoignait de la semer sur le bord de la fontaine, au pied de son cocotier. La scabieuse, ajoutait-elle, donne une jolie fleur d'un bleu mourant et à fond noir, piquetée de blanc. On la croirait en deuil. On l'appelle aussi, pour cette raison, fleur de veuve. Elle se plaît dans les lieux âpres et battus des vents. Elle le priait de la semer sur le rocher où elle lui avait parlé la nuit la dernière fois, et de donner à ce rocher, pour l'amour d'elle, le nom de rocher des adieux. Elle avait renfermé ses semences dans une petite bourse dont le tissu était fort simple, mais qui parut sans prix à Paul lorsqu'il y aperçut un P et un V entrelacés et formés de cheveux qu'il reconnut à leur beauté pour être ceux de Virginie. La lettre de cette sensible et vertueuse demoiselle fit verser des larmes à toute la famille. Sa mère lui répondit au nom de la société de rester ou de revenir à son gré, l'assurant qu'ils avaient tous perdu la meilleure partie de leur bonheur depuis son départ et que pour elle en particulier, elle en était inconsolable. Paul lui écrivit une lettre fort longue où il l'assurait qu'il allait rendre le jardin digne d'elle et y mêler les plantes de l'Europe à celles de l'Afrique, ainsi qu'elle avait entrelacé leurs noms dans son ouvrage. Il lui envoyait des fruits des cocotiers de sa fontaine, parvenus à une maturité parfaite. Il n'y joignait, ajoutait-il, aucune autre semence de l'île, afin que le désir d'en revoir les productions la déterminât à y revenir promptement. Il la suppliait de se rendre au plus tôt aux vœux ardents de leur famille et aux siens particuliers, puisqu'ils ne pouvaient désormais goûter aucune joie loin d'elle. Paul sema avec le plus grand soin les graines européennes, et surtout celles de violette et de scabieuse, dont les fleurs semblaient avoir quelque analogie avec le caractère et la situation de Virginie qui les lui avait si particulièrement recommandées. Mais, soit qu'elles eussent été éventées dans le trajet, soit plutôt que le climat de cette partie de l'Afrique ne leur soit pas favorable, il n'en germa qu'un petit nombre qui ne put venir à la perfection. Cependant, l'envie, qui va même au-devant du bonheur des hommes, surtout dans les colonies françaises, répandit dans l'île des bruits qui donnaient beaucoup d'inquiétude à Paul. Les gens du vaisseau, qui avaient apporté la lettre de Virginie, assuraient qu'elle était sur le point de se marier. Ils nommaient le seigneur de la cour qui devait l'épouser. Quelques-uns même disaient que la chose était faite et qu'ils en avaient été témoins. D'abord, Paul méprisa les nouvelles apportées par un vaisseau de commerce qui en répand souvent de fausses sur les lieux de son passage. Mais, comme plusieurs habitants de l'île, par une pitié perfide, s'empressaient de le plaindre de cet événement, il commença à y ajouter quelques croyances. D'ailleurs, dans quelques-uns des romans qu'il avait lus, il voyait la trahison traitée de plaisanterie, et comme il savait que ses livres renfermaient des peintures assez fidèles des mœurs de l'Europe, il craignit que la fille de Madame de la Tour devint ainsi corrompre et oublier ses anciens engagements. Ses lumières le rendaient déjà malheureux. Ce qui acheva d'augmenter ses craintes, c'est que plusieurs vaisseaux d'Europe arrivèrent ici depuis, dans l'espace de 6 mois, sans qu'aucun d'eux apportât des nouvelles de Virginie. Cet infortuné jeune homme, livré à toutes les agitations de son cœur, venait me voir souvent pour confirmer ou pour bannir ses inquiétudes par mon expérience du monde. Je demeure, comme je vous l'ai dit, à 1 lieue et demie d'ici, sur les bords d'une petite rivière qui coule le long de la montagne longue. C'est là que je passe ma vie seule, sans femme, sans enfant et sans esclave. Après le rare bonheur de trouver une compagne qui ne soit si bien assortie, l'état le moins malheureux de la vie est sans doute de vivre seul. Tout homme qui a eu beaucoup à se plaindre des hommes cherche la solitude. Il est même très remarquable que tous les peuples malheureux, par leurs opinions, leurs mœurs ou leurs gouvernements, ont produit des classes nombreuses de citoyens entièrement dévoués à la solitude et au célibat. Tels ont été les Égyptiens dans leur décadence, les Grecs du Bas-Empire, et tels sont de nos jours les Indiens, les Chinois, les Grecs modernes, les Italiens et la plupart des peuples orientaux et méridionaux de l'Europe. La solitude ramène en partie l'homme au bonheur naturel en éloignant de lui le malheur social. Au milieu de nos sociétés, divisées par tant de préjugés, l'âme est dans une agitation continuelle. Elle roule sans cesse en elle-même mille opinions turbulentes et contradictoires dont les membres d'une société ambitieuse et misérable cherchent à se subjuguer les uns les autres. Mais dans la solitude, elle dépose ses illusions étrangères qui la troublent. Elle reprend le sentiment simple d'elle-même, de la nature et de son auteur. Ainsi, l'eau bourbeuse d'un torrent qui ravage les campagnes, venant à se répandre dans quelques petits bassins écartés de son cours, dépose ses vases au fond de son lit, reprend sa première limpidité et, redevenue transparente, réfléchit avec ses propres rivages la verdure de la terre et la lumière des cieux. La solitude rétablit aussi bien les harmonies du corps que celles de l'âme. C'est dans la classe des solitaires que se trouvent les hommes qui poussent le plus loin la carrière de la vie. Tels sont les Brahmes de l'Inde. Enfin, je la crois si nécessaire au bonheur dans le monde même qu'il me paraît impossible d'y goûter un plaisir durable de quelque sentiment que ce soit ou de régler sa conduite sur quelque principe stable si l'on ne se fait une solitude intérieure d'où notre opinion sorte bien rarement et où celle d'autrui n'entre jamais. Je ne veux pas dire, toutefois, que l'homme doive vivre absolument seul. Il est lié avec tout le genre humain par ses besoins. Il doit donc ses travaux aux hommes, il se doit aussi au reste de la nature. Mais comme Dieu a donné à chacun de nous des organes parfaitement assortis aux éléments du globe où nous vivons, des pieds pour le sol, des poumons pour l'air, des yeux pour la lumière, sans que nous puissions intervenir et retirer l'usage de ses sens, il s'est donné pour lui seul, qui est l'auteur de la vie, le cœur qui en est le principal organe. Je passe donc mes jours loin des hommes que j'ai voulu servir et qui m'ont persécuté. Après avoir parcouru une grande partie de l'Europe et quelques cantons de l'Amérique et de l'Afrique, je me suis fixé dans cette île, peu habitée, séduit par sa douce température et par ses solitudes. Une cabane que j'ai bâtie dans la forêt, au pied d'un arbre, un petit champ défriché de mes mains, une rivière qui coule devant ma porte, suffisent à mes besoins et à mes plaisirs. Je joins à ces jouissances celle de quelques bons livres qui m'apprennent à devenir meilleur. Ils font encore servir à mon bonheur le monde que j'ai quitté. Ils me présentent des tableaux de passion qui en rendent les habitants si misérables, et par la comparaison que je leur sors au mien, ils me font jouir d'un bonheur négatif. Comme un homme sauvé du naufrage sur un rocher, je contemple de ma solitude les orages qui frémissent dans le monde. Mon repos même redouble par le bruit lointain de la tempête. Depuis que les hommes ne sont plus sur mon chemin et que je ne suis plus sur le leur, je ne les hais, je ne les plains. Si je rencontre quelque infortuné, je tâche de venir à son secours par mes conseils, comme un passant torrent tend la main de malheureux qui s'y noie. Mais je n'ai guère trouvé que l'innocence attentive à ma voix. La nature appelle en vain à elle le reste des hommes. Chacun d'eux se fait d'elle une image qu'il revêt de ses propres passions. Il poursuit toute sa vie ce vain fantôme qui l'égare, et il se plaint ensuite au ciel de l'erreur qu'il s'est formée lui-même. Parmi un grand nombre d'infortunés que j'ai quelquefois essayé de ramener à la nature, je n'en ai pas trouvé un seul qui ne fût enivré de ses propres misères. Il m'écoutait d'abord avec attention, dans l'espérance que je les aiderais à acquérir de la gloire ou de la fortune. Mais, voyant que je ne voulais leur apprendre qu'à s'en passer, ils me trouvaient moi-même misérable de ne pas courir après leur malheureux bonheur. Ils blâmaient ma vie solitaire. Ils prétendaient qu'eux seuls étaient utiles aux hommes, et ils s'efforçaient de m'entraîner dans leur tourbillon. Mais, si je ne me communique à tout le monde, je ne me livre à personne. Souvent, il me suffit de moi pour me servir de leçon à moi-même. Je repasse dans le calme présent les agitations passées de ma propre vie, auxquelles j'ai donné tant de prix. Les protections, la fortune, la réputation, les voluptés et les opinions qui se combattent par toute la terre. Je compare tant d'hommes que j'ai vus se disputer avec fureur ces chimères et qui ne sont plus au flot de ma rivière, qui se brisent en écumant contre les crochets de son lit et disparaissent pour ne revenir jamais. Pour moi, je me laisse entraîner en paix au fleuve du temps, vers l'océan de l'avenir qui n'a plus de rivage. Et par le spectacle des harmonies actuelles de la nature, je m'élève vers son auteur et j'espère dans un autre monde de plus heureux destin. Quoi qu'on n'aperçoive pas de mon ermitage situé au milieu d'une forêt, cette multitude d'objets que nous présente l'élévation du lieu où nous sommes, il s'y trouve des dispositions intéressantes, surtout pour un homme qui, comme moi, aime mieux rentrer en lui-même que s'étendre au dehors. La rivière qui coule devant ma porte passe en ligne droite à travers les bois, en sorte qu'elle me présente un long canal ombragé d'arbres et de toutes sortes de feuillages. Il y a des tatamaks, des bois d'ébène, et de ceux qu'on appelle ici bois de pommes, bois d'olive et bois de cannelle. Des bosquets de palmistes élèvent çà et là leurs colonnes nues et longues de plus de 100 pieds, surmontées à leur sommet d'un bouquet de palmes, et paraissent au-dessus des autres arbres comme une forêt plantée sur une autre forêt. Il s'y joint des lianes de divers feuillages qui, s'enlaçant d'un arbre à l'autre, forment ici des arcades de fleurs, là de longues courtines de verdure. Des odeurs aromatiques sortent de la plupart de ces arbres, et leurs parfums ont tant d'influence sur les vêtements même qu'on sent ici un homme qui a traversé une forêt quelques heures après qu'il en est sorti. Dans la saison où ils donnent leurs fleurs, vous les diriez à demi couverts de neige. À la fin de l'été, plusieurs espèces d'oiseaux étrangers viennent, par un instinct incompréhensible, de régions inconnues au-delà de vastes mers, récolter les graines des végétaux de cette île et opposent l'éclat de leur couleur à la verdure des arbres brunis par le soleil. Telles sont, entre autres, diverses espèces de perruches et les pigeons bleus, appelés ici pigeons hollandais. Les singes, habitants domiciliés de ces forêts, se jouent dans leurs sombres rameaux, dont ils se détachent par leurs poils gris et verdâtres et leurs faces toutes noires. Quelques-uns s'y suspendent par la queue et se balancent en l'air, d'autres sautent de branche en branche, portant leurs petits dans leurs bras. Jamais le fusil meurtrier n'y a effrayé ces paisibles enfants de la nature. On n'y entend que des cris de joie, des gazouillements et des ramages inconnus de quelques oiseaux, des terres australes, que répètent au loin les échos de ces forêts. La rivière qui coule en bouillonnant sur un lit de roche, à travers les arbres, réfléchit çà et là dans ces eaux limpides leurs masses vénérables de verdure et d'ombre, ainsi que les jeux de leurs heureux habitants. À 1000 pas de là, elles se précipitent de différents étages de rochers et forment à sa chute une nappe d'eau unie comme le cristal qui se brise en tombant en bouillon d'écume. 1000 bruits confus sortent de ces eaux tumultueuses et dispersés par les vents dans la forêt. Tantôt ils fuient au loin, tantôt ils se rapprochent tous à la fois et assourdissent comme les sons des cloches d'une cathédrale. L'air sans cesse renouvelé par le mouvement des eaux entretient sur les bords de cette rivière, malgré les ardeurs de l'été, une verdure et une fraîcheur qu'on trouve rarement dans cette île sur le haut même des montagnes. À quelque distance de là est un rocher, assez éloigné de la cascade pour qu'on n'y soit pas étourdi du bruit de ses eaux, et qui en est assez voisin pour y jouir de leur vue, de leur fraîcheur et de leur murmure. Nous allions quelquefois, dans les grandes chaleurs, dîner à l'ombre de ce rocher, Madame de la Tour, Marguerite, Virginie, Paul et moi. Comme Virginie dirigeait toujours, au bien d'autrui, ses actions, même les plus communes, elle ne mangeait pas un fruit à la campagne qu'elle n'en eût mis en terre les noyaux ou les pépins. « Il en viendra, disait-elle, des arbres qui donneront leurs fruits à quelques voyageurs ou au moins à un oiseau. » Un jour donc, elle avait mangé une papaye au pied de ce rocher, elle y planta les semences de ce fruit. Bientôt après, il y crut plusieurs papayers, parmi lesquels il y en avait une femelle, c'est-à-dire qui porte des fruits. Cet arbre n'était pas si haut que le genou de Virginie à son départ, mais comme il croît vite, 2 ans après, il avait 20 pieds de haut et son tronc était entouré dans sa partie supérieure de plusieurs rangs de fruits mûrs. Paul, s'étant rendu par hasard dans ce lieu, fut rempli de joie en voyant ce grand arbre sorti d'une petite graine qu'il avait vue planter par son ami. Et en même temps, il fut saisi d'une tristesse profonde par ce témoignage de sa longue absence. Les objets que nous voyons habituellement ne nous font pas apercevoir de la rapidité de notre vie. Ils vieillissent avec nous d'une vieillesse insensible. Mais ce sont ceux que nous revoyons tout à coup, après les avoir perdus quelques années de vue, qui nous avertissent de la vitesse avec laquelle s'écoule le fleuve de nos jours. Paul fut aussi surpris, aussi troublé à la vue de ce grand papayer chargé de fruits qu'un voyageur l'est après une longue absence de son pays, de n'y plus retrouver ses contemporains et d'y voir leurs enfants qu'il avait laissés à la mamelle, devenus eux-mêmes pères de famille. Tantôt il voulait l'abattre parce qu'il lui rendait trop sensible la longueur du temps qui s'était écoulé depuis le départ de Virginie, tantôt, le considérant comme un monument de sa bienfaisance, il baisait son tronc et lui adressait des paroles pleines d'amour et de regret. Ô arbre, dont la postérité existe encore dans nos bois, Je vous ai vu moi-même avec plus d'intérêt et de vénération que les arcs de triomphe des Romains. Puisse la nature, qui détruit chaque jour les monuments de l'ambition des rois, multiplier dans nos forêts ceux de la bienfaisance d'une jeune et pauvre fille. C'était donc au pied de ce papayer que j'étais sûr de rencontrer Paul quand il venait dans mon quartier. Un jour, je l'y trouvais accablé de mélancolie, et j'eus avec lui une conversation que je vais vous rapporter, si je ne vous suis point trop ennuyeux par mes longues digressions, pardonnables à mon âge et à mes dernières amitiés. Je vous la raconterai en forme de dialogue, afin que vous jugiez du bon sens naturel de ce jeune homme, et il vous sera aisé de faire la différence des interlocuteurs par le sens de ses questions et de mes réponses. Il me dit « Je suis bien chagrin. Mademoiselle de la Tour est partie depuis 2 ans et 2 mois. » Et depuis 8 mois et demi, elle ne nous a pas donné de ses nouvelles. Elle est riche, je suis pauvre, elle m'a oublié. J'ai envie de m'embarquer. J'irai en France, j'y serrerai le roi, j'y ferai fortune. Et la grand-tante de Mademoiselle de la Tour me donnera sa petite nièce en mariage, quand je serai devenu un grand seigneur. Le vieillard. Oh, mon ami, ne m'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas de naissance ? Paul. Ma mère me l'a dit, car pour moi je ne sais ce que c'est que la naissance. Je ne me suis jamais aperçu que j'en eusse moins qu'un autre, ni que les autres en eussent plus que moi. Le vieillard. Le défaut de naissance vous ferme en France le chemin aux grands emplois. Il y a plus, vous ne pouvez même être admis dans aucun corps distingué. Paul. Vous m'avez dit plusieurs fois qu'une des causes de la grandeur de la France était que le moindre sujet pouvait y parvenir à tout. Et vous m'avez cité beaucoup d'hommes célèbres qui, sortis de petits états, avaient fait honneur à leur patrie. Vous vouliez donc tromper mon courage ? Mon fils, jamais je ne l'abattrai. Je vous ai dit la vérité sur les temps passés. Mais les choses ont bien changé à présent. Tout est devenu vénal en France. Tout y est aujourd'hui le patrimoine d'un petit nombre de familles ou le partage des corps. Le roi est un soleil que les grands et les corps environnent comme des nuages. Il est presque impossible qu'un de ses rayons tombe sur vous. Autrefois, dans une administration moins compliquée, on a vu ces phénomènes. Alors les talents et le mérite se sont développés de toutes parts, comme des terres nouvelles qui, venant à être défrichées, produisent avec tout leur suc. Mais les grands rois, qui savent connaître les hommes et les choisir, sont rares. Le vulgaire des rois ne se laisse aller qu'aux impulsions des grands et des corps qui les environnent. Mais je trouverai peut-être un de ces grands qui me protégera. Pour être protégé des grands, il faut servir leur ambition ou leur plaisir. Vous n'y réussirez jamais, car vous êtes sans naissance et vous avez de la probité. Mais je ferai des actions si courageuses, je serai si fidèle à ma parole, si exact dans mes devoirs, si zélé et si constant dans mon amitié, que je mériterais d'être adopté par quelqu'un d'eux, comme j'ai vu que cela se pratiquait dans les histoires anciennes que vous m'avez fait lire. Oh, mon ami, Chez les Grecs et les Romains, même dans leur décadence, les grands avaient du respect pour la vertu. Mais nous avons une foule d'hommes célèbres en tout genre, sortis des classes du peuple, et je n'en sache pas un seul qui ait été adopté par une grande maison. La vertu sans nos rois serait condamnée en France à être éternellement plébéienne. Comme je vous l'ai dit, ils la mettent quelquefois en honneur lorsqu'ils l'aperçoivent, mais aujourd'hui, les distinctions qui lui étaient réservées ne s'accordent plus que pour de l'argent. Au défaut d'un grand, je chercherai à plaire à un corps. J'épouserai entièrement son esprit et ses opinions. Je m'en ferai aimer. Alors vous ferez donc comme les autres hommes. Vous renoncerez à votre conscience pour parvenir à la fortune. Oh non ! Je ne chercherai jamais que la vérité. Au lieu de vous faire aimer, vous pourriez bien vous faire haïr. D'ailleurs, les corps s'intéressent fort peu à la découverte de la vérité. Toute opinion est indifférente aux ambitieux, pourvu qu'ils gouvernent. Que je suis infortuné et tout me repousse, je suis condamné à passer ma vie dans un travail obscur, loin de Virginie. Et il soupira profondément. Le vieillard. Que Dieu soit votre unique patron et le genre humain votre corps. Soyez constamment attachés à l'un et à l'autre. Les familles, les corps, les peuples, les rois ont leurs préjugés et leurs passions. Il faut souvent les servir par des vices. Dieu et le genre humain ne nous demandent que des vertus. Mais pourquoi voulez-vous être distingué du reste des hommes ? C'est un sentiment qui n'est pas naturel, puisque si chacun l'avait, chacun serait en état de guerre avec son voisin. Contentez-vous de remplir votre devoir dans l'état où la Providence vous a mis. Bénissez votre sort qui vous permet d'avoir une conscience à vous et qui ne vous oblige pas, comme les grands, de mettre votre bonheur dans l'opinion des petits, et comme les petits de ramper sous les grands pour avoir de quoi vivre. Vous êtes dans un pays et dans une condition où, pour subsister, vous n'avez besoin ni de tromper, ni de flatter, ni de vous avilir, comme font la plupart de ceux qui cherchent la fortune en Europe, où votre état ne vous interdit aucune vertu, où vous pouvez être impunément bon, vrai, sincère, instruit, patient, tempérant, chaste, indulgent, pieux, sans qu'aucun ridicule vienne flétrir votre sagesse qui n'est encore qu'en fleurs. Le ciel vous a donné de la liberté, de la santé, une bonne conscience et des amis. Les rois dont vous ambitionnez la faveur ne sont pas si heureux. Ah, mais il me manque Virginie. Sans elle, je n'ai rien. Avec elle, j'aurai tout. Elle seule est ma naissance, ma gloire et ma fortune. Mais puisqu'enfin sa parente veut lui donner pour mari un homme d'un grand nom, avec l'étude et des livres, on devient savant et célèbre. Je m'en vais étudier. J'acquerrai de la science. Je servirai utilement ma patrie par mes lumières, sans nuire à personne et sans en dépendre. Je deviendrai fameux et ma gloire n'appartiendra qu'à moi. Mon fils, les talents sont encore plus rares que la naissance et que les richesses, et sans doute ils sont de plus grands biens puisque rien ne peut les ôter et que partout ils nous concilient l'estime publique. Mais ils coûtent cher. On ne les acquiert que par des privations en tout genre, par une sensibilité exquise qui nous rend malheureux au-dedans et au-dehors par les persécutions de nos contemporains. l'homme de robe, n'en vit point en France la gloire du militaire, ni le militaire celle de l'homme de robe. Mais tout le monde y traversera votre chemin, parce que tout le monde s'y pique d'avoir de l'esprit. Vous servirez les hommes, dites-vous, mais celui qui fait produire à un terrain une gerbe de blé de plus leur rend un plus grand service que celui qui leur donne un livre. Oh, celle qui a planté ce peuplier, en fait, fait aux habitants de ces forêts un présent plus utile et plus doux que si elle leur avait donné une bibliothèque. Et en même temps, il saisit cet arbre dans ses bras et le baisa avec transport. Le vieillard, le meilleur des livres, qui ne prêche que l'égalité, l'amitié, l'humanité et la concorde, l'Évangile, a servi pendant des siècles de prétexte aux fureurs des Européens. Combien de tyrannies publiques et particulières s'exercent encore en son nom sur la terre? Après cela, qui se flattera d'être utile aux hommes par un livre? Rappelez-vous quel a été le sort de la plupart des philosophes qui leur ont prêché la sagesse. Homère, qui l'a revêtu de vers si beaux, demandait l'aumône pendant sa vie. Socrate, qui en donna aux Athéniens de si aimables leçons par ses discours et par ses mœurs, fut empoisonné juridiquement par eux. Son sublime disciple Platon fut livré à l'esclavage par l'ordre du prince même qui le protégeait. Et avant eux, Pythagore, qui étendait l'humanité jusqu'aux animaux, fut brûlé vif par les Crotoniates. Que dis-je? La plupart même de ces noms illustres sont venus à nous défigurés par quelques traits de satire qui les caractérisent. L'ingratitude humaine se plaisante à la reconnaître là. Et si dans la foule, la gloire de quelques-uns est venue mettre et pure jusqu'à nous, c'est que ceux qui les ont portés ont vécu loin de la société de leurs contemporains, semblables à ces statues qu'on tire entières des champs de la Grèce et de l'Italie, et qui, pour avoir été ensevelies dans le sein de la terre, ont échappé à la fureur des barbares. Vous voyez donc que, pour acquérir la gloire orageuse des lettres, il faut bien de la vertu et être prêt à sacrifier sa propre vie. D'ailleurs, croyez-vous que cette gloire intéresse en France les gens riches? Ils se soucient bien des gens de lettres auxquels la science ne rapporte ni dignité dans la patrie, ni gouvernement, ni entrée à la cour. On persécute peu dans ce siècle, indifférent à tout, or à la fortune et aux voluptés. Mais les lumières et la vertu n'y mènent à rien de distingué parce que tout est dans l'état, le prix de l'argent. Autrefois, elles trouvaient des récompenses assurées dans les différentes places de l'Église, de la magistrature et de l'administration. Aujourd'hui, elles ne servent qu'à faire des livres. Mais ce fruit peu prisé des gens du monde est toujours digne de son origine céleste. C'est à ces mêmes livres qu'il est réservé particulièrement de donner de l'éclat à la vertu obscure, de consoler les malheureux, d'éclairer les nations et de dire la vérité même au roi. C'est sans contredit la fonction la plus auguste dont le ciel puisse honorer un mortel sur la terre. Quel est l'homme qui ne se console de l'injustice ou du mépris de ceux qui disposent de la fortune lorsqu'il pense que son ouvrage ira de siècle en siècle et de nation en nation servir de barrière à l'erreur et aux guerres, et que, du sein de l'obscurité où il a vécu, il jaillit une gloire qui effacera celle de la plupart des rois dont les monuments périssent dans l'oubli, malgré les flatteurs qui les élèvent et qui les vantent. Paul. Ah, je ne voudrais cette gloire que pour la répandre sur Virginie et la rendre chère à l'univers. Mais vous, qui avez tant de connaissances, dites-moi si nous nous marierons. Je voudrais être savant, au moins pour connaître l'avenir. Qui voudrait vivre, mon fils, s'il connaissait l'avenir? Un seul malheur prévu vous donne tant de vaines inquiétudes. La vue d'un malheur certain empoisonnerait tous les jours qui le précéderaient. Il ne faut pas même trop approfondir ce qui nous environne. Et le ciel, qui nous donna la réflexion pour prévoir nos besoins, nous a donné les besoins pour mettre des bornes à notre réflexion. Mais avec de l'argent, dites-vous, on acquiert en Europe des dignités, des honneurs. J'irai m'enrichir au Bengale pour aller épouser Virginie à Paris. Je vais m'embarquer. Quoi ? Vous quitteriez sa mère et la vôtre ? Vous m'avez vous-même donné le conseil de passer aux Indes. Virginie était alors ici, mais vous êtes maintenant l'unique soutien de votre mère et de la sienne. Virginie leur fera du bien par sa riche parente. Oh, les riches n'en font guère qu'à ceux qui leur font honneur dans le monde. Ils ont des parents bien plus à plaindre que Madame de la Tour, qui, faute d'être secourue par eux, sacrifient leur liberté pour avoir du pain et passent leur vie renfermée dans des couvents. Paul. Quel pays que l'Europe! Oh, il faut que Virginie revienne ici. Qu'a-t-elle besoin d'avoir une parente riche? Elle était si contente sous ses cabanes, si jolie et si bien parée avec un mouchoir rouge ou des fleurs autour de sa tête. Reviens, Virginie, quitte tes hôtels et tes grandeurs. Reviens dans ces rochers, à l'ombre de ces bois et de nos cocotiers. Hélas, tu es peut-être maintenant malheureuse. Et il se mettait à pleurer. Mon père, ne me cachez rien. Si vous ne pouvez me dire si j'épouserai Virginie, au moins apprenez-moi si elle m'aime encore au milieu de ces grands seigneurs qui parlent au roi et qui la vont voir. Oh, mon ami, je suis sûr qu'elle vous aime, par plusieurs raisons, mais surtout parce qu'elle a de la vertu. À ces mots, il me sauta au cou, transporté de joie. Mais croyez-vous les femmes d'Europe fausses comme on les représente dans les comédies et dans les livres que vous m'avez prêtés? Les femmes sont fausses dans les pays où les hommes sont tyrans. Partout, la violence produit la ruse. Mais comment peut-on être tyran des femmes? En les mariant, sans les consulter. Une jeune avec un vieillard, une femme sensible avec un homme indifférent. Mais pourquoi ne pas marier ensemble ceux qui se conviennent, les jeunes avec les jeunes, les amants avec les amantes? C'est que la plupart des jeunes gens en France n'ont pas assez de fortune pour se marier, et qu'ils n'en acquièrent qu'en devenant vieux. Jeunes, ils corrompent les femmes de leurs voisins, et vieux, ils ne peuvent fixer l'affection de leurs épouses. Ils ont trompé étant jeunes, on les trompe à leur tour étant vieux. C'est une des réactions de la justice universelle qui gouverne le monde. Un excès y balance toujours un autre excès. Ainsi la plupart des Européens passent leur vie dans ce double désordre, et ce désordre augmente dans une société à mesure que les richesses s'y accumulent sur un moindre nombre de têtes. L'État est semblable à un jardin où les petits arbres ne peuvent venir s'il y en a de trop grands qui les ombragent, mais il y a cette différence que la beauté d'un jardin peut résulter d'un petit nombre de grands arbres et que la prospérité d'un État dépend toujours de la multitude et de l'égalité des sujets et non pas d'un petit nombre de riches. Mais qu'est-il besoin d'être riche pour se marier? Afin de passer ses jours dans l'abondance, sans rien faire? Et pourquoi ne pas travailler? Je travaille bien, moi. C'est qu'en Europe, le travail des mains déshonore. On l'appelle le travail mécanique. Celui même de labourer la terre y est le plus méprisé de tous. Un artisan y est bien plus estimé qu'un paysan. Quoi? L'art qui nourrit les hommes est méprisé en Europe? Je ne vous comprends pas. Oh! Il n'est pas possible à un homme élevé dans la nature de comprendre les dépravations de la société. On se fait une idée précise de l'ordre, mais non pas du désordre. La beauté, la vertu, le bonheur ont des proportions. La laideur, le vice et le malheur n'en ont point. Ah, les gens riches sont donc bien heureux. Ils ne trouvent d'obstacle à rien. Ils peuvent combler de plaisir les objets qu'ils aiment. Ils sont la plupart usés sur tous les plaisirs, par cela même qu'il ne leur coûte aucune peine. N'avez-vous pas éprouvé que le plaisir du repos s'achète par la fatigue, celui de manger par la faim, et celui de boire par la soif? Eh bien, celui d'aimer, d'être aimé, ne s'acquiert que par une multitude de privations et de sacrifices. Les richesses ôtent aux riches tous ces plaisirs-là en prévenant leurs besoins. Joignez à l'ennui qui suit leur satiété l'orgueil qui naît de leur opulence et que la moindre privation blesse lors même que les plus grandes jouissances ne flattent plus. Le parfum de mille roses ne plaît qu'un instant. Mais la douleur que cause une seule de leurs épines dure longtemps après sa piqûre. Un mal au milieu des plaisirs est pour les riches une épine au milieu des fleurs. Pour les pauvres, au contraire, un plaisir au milieu des maux est une fleur au milieu des épines. Ils en goûtent vivement la jouissance. Tout effet augmente par son contraste. La nature a tout balancé. Quel état a à tout prendre? Croyez-vous préférable de n'avoir presque rien à espérer et tout à craindre, ou presque rien à craindre et tout à espérer? Le premier état est celui des riches, et le second celui des pauvres. Mais ces extrêmes sont également difficiles à supporter aux hommes dont le bonheur consiste dans la médiocrité et la vertu. Mais qu'entendez-vous par la vertu? Mon fils, vous qui soutenez vos parents par vos travaux, vous n'avez pas besoin qu'on vous la définisse. La vertu est un effort fait sur nous-mêmes pour le bien d'autrui, dans l'intention de plaire à Dieu seul. Oh, que Virginie est vertueuse! C'est par vertu qu'elle a voulu être riche afin d'être bienfaisante. C'est par vertu qu'elle est partie de cette île. La vertu l'y ramènera. L'idée de son retour prochain allumant l'imagination de ce jeune homme, toutes ses inquiétudes s'évanouissaient. Virginie n'avait point écrit parce qu'elle allait arriver. Il fallait si peu de temps pour venir d'Europe avec un bon vent. Il faisait l'énumération des vaisseaux qui avaient fait ce trajet de 4 500 lieues en moins de 3 mois. Le vaisseau où elle s'était embarquée n'en mettrait pas plus de 2. Les constructeurs étaient aujourd'hui si savants et les marins si habiles. Ils parlaient des arrangements qu'il allait faire pour la recevoir, du nouveau logement qu'il allait bâtir, des plaisirs et des surprises qu'il lui ménagerait chaque jour quand elle serait sa femme. Sa femme. Oh, cette idée le ravissait. Au moins, mon père, me disait-il, vous ne ferez plus rien que pour votre plaisir. Virginie étant riche, nous aurons beaucoup de noirs qui travailleront pour nous. Vous serez toujours avec nous, n'ayant d'autre souci que celui de vous amuser et de vous réjouir. Et il allait, hors de lui, porter à sa famille la joie dont il était enivré. En peu de temps, les grandes craintes succèdent aux grandes espérances. Les passions violentes jettent toujours l'âme dans les extrémités opposées. Souvent, dès le lendemain, Paul revenait me voir accablé de tristesse. Il me disait « Virginie, ne m'écris point. Si elle était partie d'Europe, elle m'aurait mandé son départ. Oh. Ah, les bruits qui ont couru d'elle ne sont que trop fondés. Sa tante l'a mariée à un grand seigneur. L'amour des richesses l'a perdue, comme tant d'autres. Dans ses livres qui peignent si bien les femmes, la vertu n'est qu'un sujet de roman. Si Virginie avait eu de la vertu, elle n'aurait pas quitté sa propre mère et moi. Pendant que je passe ma vie à penser à elle, elle m'oublie. Je m'afflige et elle se divertit. Ah, cette pensée me désespère. Tout travail me déplaît, toute société m'ennuie. Plût à Dieu que la guerre fût déclarée dans l'Inde. J'irais y mourir. Mon fils, lui répondis-je, le courage qui nous jette dans la mort n'est que le courage d'un instant. Il est souvent excité par les vains applaudissements des hommes. Il en est un plus rare et plus nécessaire qui nous fait supporter chaque jour, sans témoins et sans éloges, les traverses de la vie. C'est la patience. Elle s'appuie non sur l'opinion d'autrui ou sur l'impulsion de nos passions, mais sur la volonté de Dieu. La patience est le courage de la vertu. Ah ! S'écria-t-il, je n'ai donc point de vertu. Mais tout m'accable et me désespère. La vertu, repris-je, toujours égale, constante, invariable, n'est pas le partage de l'homme. Au milieu de tant de passions qui nous agitent, notre raison se trouble et s'obscurcit, mais il est des phares où nous pouvons en rallumer le flambeau. Ce sont les lettres. Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce sont des rayons de cette sagesse qui gouverne l'univers, que l'homme a inspiré par un art céleste, a appris à fixer sur la terre. Semblables aux rayons du soleil, elles éclairent, elles réjouissent, elles échauffent. C'est un feu divin. Comme le feu, elles approprient toute la nature à notre usage. Par elles, nous réunissons autour de nous les choses, les lieux, les hommes et les temps. Ce sont elles qui nous rappellent aux règles de la vie humaine. Elles calment les passions. Elles répriment les vices. Elles excitent les vertus par les exemples augustes des gens de bien qu'elles célèbrent et dont elles nous présentent les images toujours honorées. Ce sont des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du genre humain. Les grands écrivains qu'elles inspirent ont toujours paru dans les temps les plus difficiles à supporter à toute société, les temps de barbarie et ceux de dépravation. Mon fils, les lettres ont consolé une infinité d'hommes plus malheureux que vous. Xénophon, exilé de sa patrie après y avoir ramené 10 000 Grecs. Scipion l'Africain, lassé des calomnies des Romains. Lucullus de leur brigue, Catilina de l'ingratitude de sa cour. Les Grecs, si ingénieux, avaient réparti à chacune des muses qui président aux lettres une partie de notre entendement pour le gouverner. Nous devons donc leur donner nos passions à régir, afin qu'elles leur imposent un joug et un frein. Elles doivent remplir, par rapport aux puissances de notre âme, les mêmes fonctions que les heures qui attelaient et conduisaient les chevaux du ciel. Lisez donc, mon fils. Les sages qui ont écrit avant nous sont des voyageurs qui nous ont précédés dans les sentiers de l'infortune, qui nous tendent la main et nous invitent à nous joindre à leur compagnie lorsque tout nous abandonne. Un bon livre est un bon ami. Ah ! S'écriait Paul. Je n'avais pas besoin de savoir lire quand Virginie était ici. Elle n'avait pas plus étudié que moi, mais quand elle me regardait en m'appelant son ami, il m'était impossible d'avoir du chagrin. Sans doute, lui disais-je, il n'y a point d'ami aussi agréable qu'une maîtresse qui nous aime. Il y a de plus dans la femme une gaieté légère qui dissipe la tristesse de l'homme. Ses grâces font évanouir les noirs fantômes de la réflexion. Sur son visage sont les doux attraits de la confiance. Quelle joie n'est rendue plus vive par sa joie? Quel front ne se déride à son sourire? Quelle colère résiste à ses larmes? Virginie reviendra avec plus de philosophie.